Wollstonecraft, Mary, défense des droits des femmes, suivi de quelques considérations sur les sujets politiques et moraux. Ouvrage traduit de l'anglais de Mary Wollstonecraft et dédié à Monsieur l'ancien évêque d'Autun. Première partie. Paris, 1792. Épître dédicatoire à Monsieur Talleyrand Péricord, ancien évêque d'Autun. Monsieur, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre ouvrage sur l'éducation nationale. C'est ce qui me détermine à vous dédier ce volume, chose que je fais pour la première fois de ma vie. Je me propose par là de vous engager à le lire avec attention. Un motif de plus, c'est la ferme croyance où je suis d'être entendu de vous, bonheur que je n'aurai pas auprès de beaucoup de prétendus beaux esprits qui ne savent que faire des épigrammes contre des raisonnements trop forts pour qu'ils y répondent. Je porte encore plus loin, monsieur, ma confiance respectueuse en votre intelligence. J'ose me promettre que vous ne jetterez pas mon livre de côté et ne vous hâterez point de conclure que j'ai tort parce que je n'ai pas vu comme vous. Pardon de ma franchise, mais je crois devoir vous observer que vous avez passé trop rapidement sur ce sujet, vous contentant de le considérer aussi légèrement qu'autrefois, quand les droits de l'homme, pour ne pas parler de ceux de la femme, étaient foulés aux pieds comme chimériques. Je vous somme donc aujourd'hui de peser ce que j'ai avancé relativement aux droits de la femme et à l'éducation nationale. Et je vous rappelle à ce devoir, avec la voix forte de l'humanité, car j'ose croire, monsieur, avoir raisonné sans passion. Je plaide pour mon sexe, j'en conviens, mais non pour moi-même. Je regarde depuis longtemps l'indépendance comme le plus grand bonheur de cette vie et même comme la base de toute vertu. Et cette indépendance, je me l'assurerai toujours en resserrant mes besoins, dussé-je vivre sur des landes stériles. Ce n'est donc qu'une affection pure pour toute l'espèce humaine qui fait courir ma plume à l'appui de ce que je regarde comme la cause de la vertu. C'est encore le même motif qui m'inspire le désir ardent de voir mon sexe placé de manière à ce qu'il avance, au lieu de le retarder, le progrès de ces grands principes qui rendent la morale substantielle. Dans le fait, mon opinion relativement aux droits et aux devoirs de la femme me semble découler si naturellement de ces principes simples que je regarde comme presque impossible de ne pas m'être rencontré avec quelques-unes de ces têtes fortes et vastes qui ont formé votre admirable constitution. Il est certain que les Lumières sont plus généralement répandues en France que dans toute autre partie de l'Europe, et je l'attribue en grande partie aux rapports sociaux qui existe depuis longtemps entre les deux sexes. Mais, je l'avouerai librement, je crois que cette communication y a été gâtée en ce qu'on a, pour ainsi dire, extrait l'essence même des plaisirs sensuels pour en flatter le goût des voluptueux et qu'on a vu prévaloir une espèce de libertinage sentimental qui, joint au système de duplicité qu'enseignait chez vous toute la marche du gouvernement politique et civil, a donné au caractère français une sorte de sagacité sinistre qu'on ne saurait rendre mieux que par le mot de finesse, et impoli apparent dans les mœurs, propre à en altérer la substance, en bannissant la sincérité du commerce de la vie. Quant à la modestie, ce plus bel attrait de la vertu, jamais elle n'a reçu, même en Angleterre, d'aussi cruels outrages qu'en France, où l'on en est venu à ce point que les femmes ont traité de pruderie ce respect pour la décence que les brutes mêmes observent par instinct. Les usages et les mœurs se tiennent de si près qu'on les a trop souvent confondus. Mais, quoique les premiers ne soient que le reflet naturel des dernières, cependant, quand différentes causes ont produit des usages corrompus et factices, qu'on saisit et qu'on s'empresse d'imiter au sortir de l'enfance, la morale n'est bientôt plus qu'un vain nom. La réserve personnelle, le respect sacré pour la propreté et les procédés délicats dans la vie domestique, méprisés presque généralement par les femmes françaises, sont pourtant les bases sur lesquelles repose la modestie. Mais loin de continuer à les dédaigner, si la pure flamme du patriotisme est parvenue jusque à leur cœur, elles travailleront aussi à perfectionner les mœurs de leurs concitoyens, en apprenant aux hommes non seulement à respecter la modestie dans les femmes, mais à l'acquérir eux-mêmes comme le seul moyen de mériter l'estime de notre sexe. Dans ma réclamation des droits de la femme, mon principal argument est établi sur ce principe simple que si la femme n'est point préparée par l'éducation à devenir la compagne de l'homme, elle arrêtera le progrès des Lumières. car la vérité doit être commune aux deux sexes, ou nous courons le risque de la voir sans effet par rapport à son influence dans la pratique générale. Et comment veut-on que la femme y coopère, à moins qu'elle ne sache de quelle manière elle doit être vertueuse? À moins que la liberté ne fortifie sa raison, jusqu'à lui faire sentir et embrasser ses devoirs, et lui montrer de quelle manière ils sont liés avec son bien réel. S'il faut élever les enfants à entendre les vrais principes du patriotisme, certes, il faut aussi que leur mère soit patriote, et ce saint amour de l'humanité, d'où sort la suite bien réglée des vertus, ne peut être produit que par la considération des intérêts moraux et civils du genre humain. Or, il faut avouer que l'éducation actuelle des femmes, ainsi que la place où elles se trouvent, leur rend impossible d'acquérir ces connaissances. J'ai présenté dans cet ouvrage plusieurs arguments décisifs, suivant moi, pour prouver que la notion reçue d'un caractère sexuel était subversive de toute morale, et j'ai soutenu que pour perfectionner le corps et le cœur humain, il fallait que la chasteté s'établît plus universellement et que la chasteté ne serait jamais respectée parmi les hommes jusqu'à ce qu'on cessât d'adorer la personne d'une femme comme une idole, ainsi qu'on le fait, quand un peu de sens commun ou de vertu commence à l'embellir des grands traits de la beauté mentale ou de l'intéressante simplicité de l'affection. Voyez, monsieur, avec impartialité ces observations. Un rayon de cette vérité a paru luire à vos yeux quand vous avez dit que voir une moitié de l'espèce humaine exclue par l'autre de toute participation au gouvernement était un phénomène politique inexplicable à ne consulter rigoureusement que les principes. S'il en est ainsi, sur quoi repose donc votre constitution ? Si les droits abstraits de l'homme supportent la discussion et le développement, je suis aussi fondé à soutenir que ceux de la femme ne craignent pas la même épreuve, quoiqu'il prévaille dans ce pays-ci une opinion différente qu'on appuie précisément par les mêmes raisons dont vous vous servez pour justifier l'oppression de notre sexe, je veux dire la prescription. Examinez et songez que je m'adresse à vous comme un législateur. Si les hommes voulant être pris pour juges de ce qui peut faire leur bonheur, quand ils revendiquent leur liberté. Il n'est pas déraisonnable et injuste de subjuguer les femmes, lors même que vous seriez persuadé que vous travaillez pour le mieux au leur. De quel droit les hommes s'arrogent-ils les fonctions exclusives de juges si les femmes partagent avec eux le bienfait de la raison? C'est dans ce style que raisonnent les tyrans de toute espèce, depuis le faible monarque jusqu'au faible père de famille. Ils n'ont rien de plus à cœur que d'imposer silence à la raison, et cependant, il vous assure toujours qu'il n'usurpe son trône que pour votre avantage. Ne vous conduisez-vous pas précisément comme eux, quand vous forcez toutes les femmes, en leur refusant leurs droits civils et politiques, à rester emprisonnées dans leur famille, se traînant au hasard dans les ténèbres? Car sûrement, monsieur, vous ne prétendrez pas qu'un devoir qui n'est point fondé sur la raison puisse être obligatoire. Si le sort auquel vous avez condamné les femmes est en effet leur destination, la raison doit vous en fournir des preuves. Cédant à cette puissance auguste, plus elles s'acquerront d'intelligence, plus elles seront dociles et attachées à leurs devoirs qu'elles connaîtront. En effet, car à moins qu'elles ne les connaissent, à moins que leurs mœurs ne soient établies sur les mêmes principes immuables que celles des hommes, il n'est point d'autorité qui les puisse obliger à s'en acquitter d'une manière vertueuse, et autrement, elles seraient des esclaves commodes. Mais l'esclavage aurait son effet infaillible de dégrader le maître et l'objet avili par la dépendance. Mais si les femmes doivent être exclues de la participation aux droits naturels du genre humain et totalement privées de donner leur voix, du moins dans ce qui les concerne particulièrement, prouvez d'abord, pour vous laver du reproche d'injustice et d'abus, qu'elles manquent de raison. Autrement, cette tâche dans votre nouvelle constitution, la première qui a été fondée sur la raison, témoignera toujours au siècle à venir que l'homme ne peut s'empêcher d'agir en tyran, et la tyrannie dans quelque partie de la société qu'elle lève son front d'airain détruira toujours la moralité. J'ai mis en avant et soutenu à plusieurs reprises ce qui me paraissait être des raisonnements irrésistibles tirés de points de fait pour prouver mon assertion, que les femmes ne sauraient être confinées par force dans les affaires domestiques. Parce que malgré leur ignorance, elles voudront toujours s'immiscer dans d'autres plus importantes et négligeront leurs devoirs particuliers uniquement pour troubler par de petites finesses, puériles mais gênantes, les plans réglés et vastes de la raison, auxquels leur éducation peut soigner, ne permettra pas à leur intelligence d'atteindre. En outre, tant qu'on ne les regardera que comme faites pour acquérir quelques faibles avantages personnels, les hommes chercheront le plaisir dans la variété et des maris infidèles continueront à faire des femmes infidèles. En effet, des êtres de cette ignorance paraîtront bien excusables si, lorsqu'on ne leur aura point appris à respecter le bien public, et que de plus tous les droits civils leur sont refusés, ils essaient de se faire justice et cherchent ailleurs une sorte de compensation. La funeste boîte de Pandore étant ainsi ouverte dans la société, qu'est-ce qui sauvera la vertu privée, l'unique gage de la liberté publique et du bonheur universel? Ôter ces restrictions injustes établies dans la société, et la loi commune et naturelle de l'attraction prévalant, les sexes se rangeront d'eux-mêmes à leur véritable place. Aujourd'hui que des lois équitables vont modeler, pour ainsi dire, vos citoyens, le mariage peut et doit devenir plus sacré. Vos jeunes gens pourront consulter leurs affections en choisissant des femmes, et vos jeunes filles déraciner la vanité de leur cœur pour y faire place à un amour honnête. Un père de famille n'ira donc plus affaiblir son tempérament et avilir son âme chez une prostituée. Il n'oubliera plus, en obéissant à l'instinct de la nature, le but qu'elle lui indique. L'épouse ne négligera plus ses enfants pour se livrer à une coquetterie ridicule et coupable quand le bon sens et la modestie lui assureront le cœur de son époux. Mais tant que les hommes ne songeront point à remplir les devoirs de la paternité, ce serait en vain qu'on attendrait des femmes qu'elles consacrassent leur temps aux devoirs du ménage. Ayant la prudence du siècle, comme dit l'Évangile, elles aimeront mieux le passer devant leur miroir, car ce déploiement de leur adresse n'est qu'un instinct de la nature pour se mettre en état d'obtenir indirectement un peu de ce pouvoir dans le partage duquel on a l'injustice de les exclure. En effet, si l'on interdit aux femmes de jouir de leurs droits légitimes, elles rendront les hommes vicieux comme elles pour en obtenir par séduction des privilèges illicites. Je désire, monsieur, éveiller les esprits en France sur cette matière, et si leurs recherches confirment mes principes, j'espère que, quand on reverra votre constitution, les droits de la femme seront enfin comptés pour quelque chose et respectés comme ils doivent l'être, surtout lorsqu'il sera bien prouvé, comme cela ne peut manquer de l'être, que la raison exige qu'on fasse attention à leurs plaintes et réclame hautement justice pour une moitié de l'espèce. Je suis avec respect, monsieur, votre, etc., Marie Wollstonecraft. Introduction. Je n'ai pu lire l'histoire du passé et porter les yeux pleins d'une sollicitude affectueuse sur le présent sans que les mouvements les plus mélancoliques d'une indignation douloureuse aient abattu mes esprits. Oui, j'ai soupiré quand je me suis vu forcé de confesser de deux choses l'une, ou que la nature a mis une grande différence entre un homme et un homme, ou que la civilisation, du moins telle qu'elle a eu lieu jusqu'à présent, s'est montrée partiale à l'excès. J'ai parcouru beaucoup de livres sur l'éducation nationale. J'ai examiné avec la patience de l'observateur la conduite des parents et la tenue des écoles. Quel a été mon résultat? Une conviction intime que l'éducation négligée de mes semblables est la principale source des maux que je déplore, et que les femmes en particulier ont été rendues faibles et misérables, émanées toutes d'une cause première qu'on va bientôt reconnaître. Dans le fait, la conduite et les manières des femmes prouvent que leurs âmes ne sont pas dans un état de santé morale. Je les comparerais volontiers aux fleurs doubles dont on sacrifie la force et l'utilité à la beauté en les plantant dans un sol trop gras, où leurs feuilles épanouies, après avoir amusé quelque temps les regards d'un possesseur capricieux, se sèchent sur la tige sans attirer l'attention, longtemps avant la saison qui devait les voir arriver à une maturité féconde. J'attribue en grande partie ce luxe stérile au système faux d'éducation, emprunté des livres écrits sur ce sujet par des hommes qui, considérant les femmes plutôt comme les instruments de plaisir de l'autre sexe que comme des créatures humaines, ont aussi été plus jaloux d'en faire des maîtresses charmantes que des épouses raisonnables. Avouons que cet hommage spécieux nous a fasciné l'esprit, au point qu'aujourd'hui les femmes, à quelques exceptions près, ne veulent inspirer que l'amour, tandis qu'elles devraient nourrir une plus noble ambition et s'attirer le respect par les qualités du cœur et de l'esprit. Je ne puis donc passer sous silence, dans un traité sur les droits et les devoirs des femmes, les ouvrages particulièrement consacrés à leur perfectionnement. Surtout quand je démontre d'une manière directe que ces faux raffinements n'ont fait qu'affaiblir les âmes des femmes et que les livres composés pour leur instruction par des hommes de génie ont eu le même effet que les productions les plus frivoles, qu'enfin nous n'y sommes regardés, dans le vrai style du mahométisme, que comme des rebelles et non comme une partie de l'espèce humaine. Tandis qu'il est pourtant reconnu que c'est la raison seule, susceptible de perfectionnement, qui élève l'homme au-dessus de la brute et a mis le sceptre de la nature dans ses faibles mains. Je serais pourtant fâché qu'eu égard à ma qualité de femme, mes lecteurs supposassent que je veux agiter avec violence la question en litige sur l'égalité ou l'infériorité de mon sexe. Néanmoins, puisque ce sujet se trouve sur mon chemin, et que je ne saurais éviter de le traiter sans exposer l'intention de mes raisonnements à être mal saisis, je vais m'y arrêter un instant pour en dire en peu de mots mon opinion. On remarque en effet que dans l'ordonnance du monde physique, la femelle est inférieure au mâle. Le mâle presse, la femelle cède. Telle est la loi de la nature, et il ne paraît pas qu'elle doive être suspendue ou abrogée en faveur de la femme. Cette supériorité physique est incontestable, c'est même une prérogative brillante. Mais, non content de cette prééminence naturelle, l'homme essaye de nous abaisser encore davantage, uniquement pour nous rendre les objets attrayants d'un quart d'heure d'attention. Et les femmes enivrées des adorations que leur prodiguent les hommes, qui n'obéissent alors qu'à l'empire de leur sens, ont le tort impardonnable de ne pas chercher à faire naître un intérêt durable dans leur cœur, ou à devenir les amis de leurs semblables qui trouvent du plaisir dans cette société. Je m'attends à une objection. J'ai partout entendu crier contre les femmes masculines qui, voulant ressembler aux hommes, cessent d'être elles sans devenir eux. Mais où en trouve-t-on de ces femmes-là? Si par cette appellation les hommes prétendent s'élever contre leur propre ardeur à chasser, jouer et boire, je me joindrai de tout mon cœur à eux. Mais si c'est contre l'imitation des vertus viriles, ou pour parler plus exactement, contre l'acquisition de ces talents et de ces vertus dont l'exercice ennoblit le caractère humain et élève les femmes dans la balance des êtres animés jusqu'à leur vraie place, c'est-à-dire à être comprises dans l'acception générique du mot « espèce humaine », j'espère que tous ceux qui les voient d'un œil philosophique se réuniront avec moi pour souhaiter qu'elles deviennent plus mâles de jour en jour. Cette discussion partage naturellement mon sujet. Je considérerai d'abord les femmes sous le grand point de vue des créatures humaines placées sur cette terre avec les hommes et aussi bien qu'eux pour y développer leurs facultés. Je montrerai particulièrement ensuite la destination qui leur est propre. Je serais bien aise d'éviter un écueil sur lequel ont donné beaucoup d'écrivains d'ailleurs estimables. Les instructions adressées jusqu'ici aux femmes n'ont guère été applicables qu'aux « ladies », aux femmes d'un rang distingué. J'en accepte pourtant le petit nombre d'avis indirects répandus dans l'ouvrage intitulé « Sandford et Merton ». Pour moi, en parlant à mon sexe d'un ton plus ferme, j'ai principalement en vue les femmes de la classe moyenne, parce que je les crois dans l'état le plus naturel. Peut-être les semences d'un faux raffinement, de l'immoralité, du sot orgueil, ont-elles toujours été versées dans la société par celles de la haute classe, des êtres faibles, factices, élevés d'une manière prématurée et contre nature, au-dessus, ou pour mieux dire, hors de la sphère des besoins ou des affections de leur espèce, sapent les bases de la vertu et répandent de la corruption dans toute la masse sociale. Comme classe du genre humain, ces êtres semblent mériter la pitié. Il faut convenir que l'éducation des riches tend à les rendre vains et ineptes à céder eux et les autres. Leur cœur, quand il vient s'épanouir, n'est point fortifié par la pratique de ses devoirs dont l'accomplissement donne de la dignité au caractère de l'homme. Ils ne vivent que pour s'amuser, et d'après les mêmes lois qui produisent invariablement dans la nature de certains effets, ils ne sont bons non plus qu'à procurer de bonheur aux autres des amusements stériles. Mais, me proposant d'examiner séparément les divers rangs de la société et le caractère moral des femmes de chaque classe, je crois que ces aperçus doivent suffire quant à présent. et je me suis contenté d'effleurer ce sujet parce qu'il me paraît de l'essence d'une introduction d'indiquer rapidement le contenu de l'ouvrage qu'elle prépare à lire. J'espère trouver aux yeux de mon sexe, si je traite les femmes comme des créatures raisonnables, au lieu de flatter leurs attraits séducteurs et de les regarder comme dans un état d'enfance perpétuelle qui les rend incapables de se soutenir sans lisière. Je désire vivement de montrer en quoi consiste la véritable dignité, la félicité réelle de l'homme. Je désire persuader aux femmes qu'elles doivent tâcher d'acquérir la force de l'âme et du corps et les convaincre que des phrases mielleuses, la sensibilité exagérée du cœur, la délicatesse outrée de sentiments et le raffinement exquis du goût sont presque synonymes des différentes épithètes consacrées à exprimer la faiblesse. En un mot, que ces êtres qui ne sont que des objets de pitié et de cette espèce d'affection qu'on a nommée tendresse ne tarderont pas à devenir des objets du mépris. Laissant donc de côté ces jolies petites phrases féminines pour nous adoucir notre dépendance servile et dédaignant cette élégance qui annonce la mollesse de l'âme, cette sensibilité exquise, cette docilité si douce, cette souplesse de mœurs que l'on suppose les caractéristiques sexuelles d'une enveloppe la plus faible, je souhaite faire voir que l'élégance est au-dessous de l'énergie de la vertu et que le premier objet d'une ambition louable doit être d'obtenir un caractère marquant comme être humain sans égard à la différence du sexe, et qu'on ne saurait mieux juger les vues secondaires qu'en les éprouvant à cette pierre de touche. Telle est l'esquisse heurtée de mon plan. Et si je puis rendre ma conviction avec les émotions vives que j'éprouve toutes les fois que je médite sur ce sujet, quelques-uns de mes lecteurs sentiront dans cet ouvrage les leçons imposantes de l'expérience et le caractère auguste de la réflexion. Animé par l'importance de cette matière, assurément je ne me rabaisserai pas jusqu'à la petite recherche d'arrondir des périodes et de polir mon style. Je vise à être utile. La sincérité ne doit pas me permettre d'affectation. Je suis plus jalouse de persuader par la force de mes raisonnements que d'éblouir par le brillant de ma diction. J'en préviens d'avance qu'on ne s'attende à trouver ici ni cet arrangement symétrique de phrases, ni cette enflure sentimentale qui, ne venant que de la tête, n'arrive jamais au cœur. Économe d'un temps précieux, je m'occuperai de choses et non de mots. Et m'efforçant de rendre les personnes de mon sexe des membres plus respectables de la société, j'éviterai soigneusement ce langage qui s'est glissé des essais moraux dans les romans et des romans dans les lettres familières et même dans la conversation. Ces jolis petits riens, ces expressions chargées de la beauté réelle de la sensibilité, tombant nonchalamment des lèvres, gâtent le goût en créant une sorte de délicatesse que j'appellerais volontiers maladie de nerfs et qui écarte toujours de la simple vérité sans atour. En nous inondant de ces sentiments maniérés, de ces transports excessifs, capables d'étouffer les émotions naturelles du cœur, ils rendent insipides les plaisirs domestiques, qui devraient adoucir l'exercice de ces devoirs sévères, par lesquels un être raisonnable et immortel se prépare à agir un jour dans une sphère d'un ordre supérieur. On s'est plus occupé dans ces derniers temps de l'éducation des femmes que par le passé. Cependant, on les regarde encore comme un sexe frivole, et les écrivains qui veulent les corriger par la satire ou l'instruction leur prodiguent encore des sarcasmes ou la pitié. On n'ignore pas qu'elles continuent de perdre les premières années de leur vie à se donner une teinture de connaissance, un vernis agréable mais léger. Pendant ce temps, la force du corps et celle du caractère se trouve sacrifiée aux notions peu chastes, libertines même, tranchons le mot, que les hommes ont prises de la beauté. Elles-mêmes les immolent au désir d'un établissement, car la seule voie pour les femmes de s'élever dans le monde, c'est le mariage, et ce violent désir, étouffant toutes leurs idées morales pour n'en laisser subsister que de basses, à peine sont-elles mariées qu'elles se conduisent comme des enfants. Elles s'habillent, mettent du blanc, du rouge, et en homme ses poupées, le plus bel ouvrage du Créateur. Ces êtres faibles et dégradés ne sont bons, suivant moi, qu'à figurer dans un harem. Je le demande en bonne foi, de pareilles femmes sont-elles en état de gouverner une famille ou de prendre soin des pauvres petites créatures si intéressantes qu'elles mettent au monde? Si donc on peut inférer du jugement de la conduite présente du sexe, de son amour effréné pour le plaisir qui remplace l'ambition ou ses passions d'un caractère plus noble, dont l'effet est d'élever et d'agrandir l'âme, que l'instruction que les femmes ont reçue jusqu'ici n'a tendu, comme la constitution civile de la société, qu'à les rendre les objets insignifiants du désir des hommes et les propagatrices d'une espèce insensée. Si l'on peut prouver qu'en visant à en faire des femmes accomplies, sans cultiver leur intelligence, on les a tirées de la sphère de leurs devoirs et rendues ridicules et inutiles, dès que la fleur passagère de leur beauté s'est évanouie, je présume que les hommes raisonnables me pardonneront d'essayer de persuader à mon sexe de devenir plus mâle et plus respectable. Dans le fait, ce mot « mâle » dont on s'épouvante n'est qu'un fantôme, rassurez-vous. Les femmes n'acquerront jamais trop de courage et de bravoure. Leur infériorité apparente, relativement à la force corporelle, les tiendra toujours jusqu'à un certain point dans la dépendance des hommes, dans les différents rapports de la vie. Mais pourquoi l'augmenter par des préjugés qui donnent un sexe à la vertu et confondent des vérités simples avec des rêveries sensuelles? En effet, les femmes sont si dégradées par les fausses notions de leur excellence que je ne crois pas avancer un paradoxe en assurant que cette faiblesse artificielle produit d'un côté un penchant à tyrannie et de l'autre donne naissance à la ruse, l'antagoniste naturel de la force. Ce qui engage les femmes à prendre ces méprisables airs enfantins par lesquels, en excitant le désir, elles détruisent l'estime. Qu'on n'entretienne plus ces préjugés et ils retomberont naturellement à la place inférieure, mais respectable, qu'ils doivent occuper dans la vie. Je me crois dispensé d'avertir que je parle à présent du sexe en général. Plusieurs individus ont plus de bon sens que leur corrélatif mâle. Et comme rien n'a de prépondérance où il y a un effort constant pour maintenir l'équilibre, de ce qui est doué naturellement d'une gravité plus grande, quelques femmes gouvernent leurs esprits sans se dégrader elles-mêmes, parce que c'est toujours l'intelligence qui tient le sceptre. Fin de l'introduction.